Décryptualité, semaine 20, salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, le sommaire de cette semaine, je commence direct, journal du net. 1 million de personnes se connectent tous les jours à l'e-chess et jouent plus de 5 millions de parties. Un article de Franz Grenier.
Donc ça parle d'un site web, une plateforme d'échecs en ligne, l'e-chess, et ça a l'air de bien marcher, et c'est un truc tout à fait libre, qui fonctionne à l'international, qui a un gros succès, notamment parce que les échecs sont très à la mode depuis quelques temps, il y a eu des séries autour du sujet. C'est mené notamment par un Français, qui a l'air de vraiment faire fonctionner le truc on ne peut mieux, et sans que ce soit payant, ni par des publicités, ni par des accords quelconques d'inscription. Donc le truc est vraiment très ouvert à tout le monde, c'est pour le plaisir, donc allez-y, et même si les infrastructures sont surchargées, ils accueillent tout le monde.
Voilà, le créateur de ce site s'appelle Thibaut Duplessis. Le monde informatique, le créateur de Python promet un langage plus rapide, un article de Serdar Yegulalp.
C'est pas facile comme nom, et ça parle de Guido Van Rossum, le créateur du langage, qui bosse à Microsoft depuis quelques temps, mais ça n'empêche, il travaille toujours sur son langage, langage libre, et c'est un langage qui fonctionne très très bien, qui est très à la mode, parce qu'il permet notamment et surtout de piloter de l'intelligence artificielle. Donc c'est pas un langage qui en lui-même est rapide, mais c'est un langage qui peut piloter des systèmes qui eux le sont. Donc c'est beaucoup utilisé pour la reconnaissance dans le langage, la reconnaissance d'images, et puis pour globalement faire de la programmation de haut niveau, parce que c'est un langage qui est assez simple d'accès, comparé à d'autres en tout cas, qui est très utilisé dans l'éducation en général, les universités. Donc c'est un langage qui est beaucoup recommandé pour bien penser, bien coder, mais c'est un peu lent.
ZDNet France open source, les devs d'Ingenuity et de Perseverance s'associent à une entreprise de drones pour créer une architecture ouverte, un article de Greg Nichols.
Donc on en a déjà parlé, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que sur Mars, il y a des drones et des outils qui sont envoyés là-bas et qui contiennent de l'informatique libre. Donc ils s'en vantaient, ils sont assez contents de le mettre en avant. Et puis ça veut dire que si vous aussi vous voulez envoyer des drones sur Mars, vous avez les outils logiciels pour le faire. Ça te fait plaisir de le savoir.
Oui, moi je reste dans le projet. Mais là manifestement, ils s'associent avec une entreprise donc pour qu'il y ait des drones chez nous qui profitent de tout leur savoir.
Donc c'est une évolution qui est intéressante. Je ne sais pas si ça va apporter grand chose là sur les drones du quotidien. Mais c'est plutôt sympa de savoir qu'il y a du code qui était sur Mars qui va peut-être participer à la vie de tous les jours.
CEO Online, la DINUM partage un catalogue d'applications recommandées, un article de Bertrand Lemaire.
Et donc c'est un catalogue qui est un peu embêtant, alors comme le dirait un autre article, il ne tient pas toutes ses promesses. Et comme le dirait l'April, c'est un référentiel qui proclame des logiciels comme étant libres, alors qu'ils ne sont pas vraiment. Donc c'est un petit peu embêtant, on n'est pas enchanté par ce référentiel.
En fait, ils ont juste pris ce que les éditeurs disent, et puis ils ont compilé ça sur des pages web. Donc,
quelle naïveté.
Voilà. Et dans les CGU, ils disent nous, on garantit rien. Donc en gros, c'est leur catalogue qui n'est pas vraiment leur catalogue, quoi. La Voix du Nord, Montigny-en-Goël, des ordinateurs récupérés et redistribués pour lutter contre la fracture numérique. Un article de Yuen Martin.
Et donc, ça part d'une association, les Amis de Mandela, qui veulent réduire la fracture numérique. Donc c'est plutôt sympa et on aime bien parce que, notamment, ils utilisent du logiciel libre sur des ordinateurs récupérés, refaçonnés, réutilisés. Donc c'est bon pour tout, c'est bon écologiquement, c'est bon pour les familles qui vont recevoir ces ordinateurs, c'est vraiment pas mal.
Voilà, partie de ces associations de terrain qui font ce genre de boulot, qui sont essentielles, bravo. Je voulais juste évoquer un truc très rapidement, sur les deux derniers podcasts on a parlé du poids, de l'argent, de la propriété sur le nom de domaine avec Audacity la semaine dernière, et il y a une petite histoire sur laquelle il faut qu'on passe rapidement parce que je pense que ça vaut le coup de le mentionner, c'est Freenode, donc, qui est un réseau IRC, le grand-père des systèmes de chat, des réseaux sociaux, qui est en gros un repère de libristes, un vieux machin qui tournait encore avec des bénévoles qui faisaient tourner ça. Et on va pas rentrer dans le détail, mais suite à des affaires de « on va créer une société pour faire un événement, blablabla », il y a un type qui l'a racheté. Et ça illustre bien ce qu'on disait là sur ces deux derniers podcasts. Tout peut se mettre à mal tourner, donc du coup, les bénévoles sont tous en train de se barrer, en train de faire un autre réseau qui s'appelle Libra. Mais voilà, ça démontre comment l'actualité finalement colle à ce qu'on a dit. Mais bon, comme on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus. On parle de quoi cette semaine, Manu ?
Là, je trouve qu'il y a un sujet qui est intéressant, c'est les bandits de grand chemin de notre époque moderne.
Banditisme, piratage, même corsaire, voilà. Puisqu'il y a pas mal de sujets qui sont tombés sur la sécurité et sur des attaques. Des attaques sur des réseaux informatiques dans des sociétés. On en a déjà parlé par le passé, et sur le fait notamment que l'informatique aujourd'hui avait, au travers de la sécurité, des conséquences sur le monde réel et physique. Donc on a quoi comme affaires qui sont tombées récemment ?
Alors la plus grosse, la plus forte, la plus impressionnante, c'est celle qui est tombée sur un système de pipeline aux États-Unis. Tu as le nom de la société qui a été touchée ?
Colonial Pipeline.
Alors bon, c'est un nom qui vaut ce qu'il vaut. Après tout, les États-Unis, c'est une ancienne colonie, hein, pourquoi pas.
Oui.
Mais ils se sont fait attaquer par un groupe qui s'appelle Dark Side, donc le côté obscur, et ce ne sont pas des gens très gentils. Vraisemblablement un groupe russe, c'est ce que tout le monde suppose aujourd'hui. Et ce groupe russe a réussi à pénétrer leur système informatique et à le chiffrer sous la forme d'un rançon logiciel qui a bloqué leur informatique, qui a tout mis de côté.
Oui, alors qui a bloqué leur informatique, mais en bloquant l'informatique, ils ont juste bloqué le pipeline. Donc en gros, l'objet même de cette activité industrielle, transporter du pétrole depuis le Texas vers l'est des États-Unis, c'est complètement arrêté à cause d'une attaque informatique.
Donc les gars ont proposé, en échange de quelques millions de dollars, de donner la clé qui permettra de débloquer le système. Mais en attendant, ça s'est su assez rapidement. Ça a duré quelques jours. Et surtout, c'est qu'on a dit à tout le monde de ne pas paniquer. Et qu'est-ce que tout le monde a fait ?
Ben, ils ont paniqué. Il y a eu des scènes de gens qui sont allés en station-service pour remplir des citernes. Et donc ça a généré des pénuries de carburant.
On leur a rappelé de ne pas utiliser les sacs plastiques pour remplir avec de l'essence.
Voilà, bon, voilà, toutes les conneries ont été faites. Bon, quand on sait qu'en cas de Covid, les gens font le plein de PQ, on ne peut pas s'attendre à des comportements très rationnels.
Et donc, la pénurie dont tout le monde avait peur a été générée, de fait, par la panique qui avait démarré assez rapidement, alors que techniquement, il n'y avait pas forcément lieu.
Voilà. Donc, ces pirates, ils avaient aussi dérobé des terachiers de données.
100 gigaoctets de données, d'après ce qu'ils disent aujourd'hui.
Et donc là, bah, l'entreprise a payé. Donc, payer les rançons, c'est le truc qu'il faut en théorie pas faire, parce que, évidemment, c'est un encouragement à recommencer.
C'est même illégal dans certains pays, hein. Il faut l'autorisation des gouvernants dans certains endroits.
Et au final, ça ne s'est pas si bien passé que ça, parce qu'ils ont récupéré la clé qui permettait normalement de libérer leur réseau informatique, de virer tout ce qui était crypté, mais ça n'a pas résolu leur problème en un claquement de doigts.
Oui, parce qu'en gros, c'est bien gentil d'avoir la clé, mais le fait de déchiffrer toutes les données, donc des disques durs entiers sur peut-être des milliers de machines et de serveurs, eh bien, c'était trop lent. Donc, il semblerait que, certes, il déchiffrait, mais ça allait trop lentement. Et il a été plus rapide, dans beaucoup de cas, de juste remettre les serveurs en place à partir de backup.
Ce qui veut dire qu'ils ont payé un peu pour rien, quoi.
Alors, ils ont payé un peu pour rien. Ceci dit, ils ont payé aussi pour que les 100 gigaoctets de données supposément volées ne soient pas répandues et revendues dans la nature. Il y a un petit peu un côté, non mais on vous paye quelques millions de dollars, et puis vous nous embêtez pas, hein, ça va, vous gardez ces données-là de côté.
Donc, la rançon, 4,4 millions de dollars, donc une belle affaire. Les pouvoirs publics, la police, les hackers de l'État américain ont réussi à faire tomber les infrastructures des hackers qui ont dit « c'est bon, on a perdu ». Mais ils ont perdu
avec...
Il y
a même Biden, hein.
C'est ça.
Même Biden s'est mis sur le rang et il a dit « c'est pas bien, on va réattaquer, on va contre-attaquer sur ces méchants hackers russes ».
Voilà, donc voilà, ils ont dit « c'est bon, on a perdu », mais ils ont quand même 4,4 millions en poche. Donc
leur serveur à DarkSide et même leur infrastructure de paiement et de contrôle à distance, qui était une infrastructure qui était louée. Donc ça, je trouve que c'est phénoménalement intéressant. C'est-à-dire qu'en
cloud,
gros, c'est...
ça a du mérite, y compris pour les opérations illégales.
Oui. C'est ça, donc ils louaient à d'autres hackers ou à d'autres groupes de hackers, ils louaient leurs services et leurs systèmes, et ils leur proposaient, voilà, si vous-même vous avez des petits coups à faire, bah, il n'y a pas de problème, on vous donne les moyens de contrôler ça, pas besoin d'expertise poussée en informatique, on vous le fait pour vous, il n'y a pas de problème, allez-y. Donc c'était purement lucratif, mais assez fonctionnel, et effectivement, ils ont officiellement perdu.
Alors, autre affaire, en Irlande, donc un hôpital, encore une fois, qui a été...
un système d'hôpitaux, je crois. Hein.
Oui. Donc, pas la totalité du système informatique, mais au moins tous les ordinateurs utilisés par les gens au quotidien. Et là, de façon assez bizarre, les rançonneurs ont donné le code, parce que l'hôpital dit « on paiera pas », et ils ont donné le code gratuitement.
Oui, alors moi, je pense que ce sont des Robin des Bois. Tu vois, des gentils, modernes, qui ne veulent pas faire du mal à la veuve et à l'orphelin. Qu'est-ce que t'en dis ?
C'est une des hypothèses en disant ils ne veulent pas nécessairement générer des morts. On peut supposer que les attaques peuvent être automatiques et qu'ils ne savent pas nécessairement à l'avance qui s'est fait choper. Bon, ils essayent quand même de leur extorquer de l'argent sur les données qu'ils ont volées également en disant « bon, on a quand même des données de santé et on va les revendre si vous ne nous filez pas de la thune ». Mais du coup, c'est intéressant de voir que là, on est potentiellement plus sur des pirates qui sont vraiment juste pour faire de l'argent. Les autres aussi, c'était pour faire de l'argent, mais ils étaient liés aux Russes et avec comme ça soupçon qu'ils soient liés à l'État russe et aux unités spécialisées dans ce genre d'action.
Oui, il semblerait que DarkSide aurait été lié avec un groupe qui s'appelle Re-Evil, donc des gens sympathiques d'après leur nom, et que ce groupe Re-Evil, lui, travaillait directement avec l'État russe. En tout cas, c'est ce qu'il en est dit. Donc DarkSide, c'était peut-être juste un peu un côté freelance. C'est-à-dire qu'on a des compétences, on a des capacités, on va les utiliser pour se faire de l'argent. Mais par ailleurs, on travaille pour l'État russe quand il faut travailler pour l'État russe.
Oui, et c'est pas la première fois que les opérations clandestines sont financées par des business mafieux. Voilà, il y a de très forts soupçons que la CIA ait financé ses opérations en Amérique du Sud avec le trafic de drogue. Du coup, ça y pense également à un article qui est paru dans Next Impact sur les pirates d'élite de la Corée du Nord, en avril dernier, là, un article de Jean-Marc Manac, et qui est assez intéressant et qui dit que depuis, on se souvient, il y a des années de ça, Sony s'était fait pirater de façon assez spectaculaire parce qu'il préparait un film...
Voilà, ils n'avaient pas été gentils avec Kim Jong-il.
Préparer un film où l'histoire, c'est une comédie et c'était des journalistes qui essayaient d'aller assassiner Kim Jong-un. Du coup, bah, ça n'a pas plu la Corée du Nord. Ils ont fait péter les serveurs
de Sony,
de Sony, révéler des scénarios, etc., etc. Et après ça, ils ont fait d'autres actions. Ils ont notamment braqué des banques informatiquement et ils ont toute une activité mafieuse de trafic de cigarettes notamment, de trafic de drogue. Ils ont des laboratoires qui font des méthamphétamines. Donc c'est assez intéressant de voir ce truc qui dit que la Corée du Nord est un État qui fait partie de la mafia et qui utilise notamment l'informatique et qui pousse très fort, qui identifie les gens qui ont des esprits brillants et qui ont manifestement des filières de formation de pirates informatiques. Ils participent au concours de maths, par exemple, pour avoir des gens très bons en maths.
Aux concours internationaux de maths. Hein.
Oui, oui. Et avec cet objectif de gagner de l'argent, et ils financent notamment leur programme militaire, en partie, je crois à hauteur de 30% dans les estimations, avec toutes ces activités. Et donc, ils peuvent attaquer des banques, ils peuvent attaquer des particuliers aussi. Hein, et c'est pour ça que, en général, les gens ne se sentent pas concernés par la sécurité informatique. Mais voilà, si c'est facile de choper 50 000 euros sur l'épargne de quelqu'un, bah pourquoi pas le faire ? En plus, ça, c'est automatisable, potentiellement. Donc c'est pour ça qu'on pensait à ces histoires de pirates et de corsaires, et de bandits de grand chemin, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de tout ça. La sécurité informatique, bah, ça permet de gagner de l'argent, soit en volant l'argent. Alors, la Corée du Nord, notamment, attaque pas mal les...
Les banques, hein, directement.
Les banques, mais aussi les sites de crypto-monnaie.
Oui, c'est un bon moyen, il y a de l'argent à se faire. Hein.
Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ce que c'est en train de donner. Bon, on l'avait déjà dit par le passé, mais la sécurité informatique va devenir de plus en plus importante.
Oui, ah bah alors là, clairement, on en a partout. Je veux dire, nos véhicules, notre vie de tous les jours, elle en est remplie, elle en est blindée. C'est pas juste nos données personnelles, hein, ça va plus loin que ça. Il y a un contrôle de la finance qui largement gère le monde hein, donc, aujourd'hui. Mmh. Et puis je suis sûr que sur les réseaux militaires, il y a des choses aussi qui doivent se passer dont on n'est pas forcément au courant. Tout ça, ça reste dans le civil, donc c'est des choses qui remontent jusqu'aux médias et dont on a information un jour ou l'autre. Mais ça reste intéressant à suivre, ça reste intéressant à voir. Et j'irai même plus loin, j'ai l'impression qu'on révèle des informations sur des systèmes de fonctionnement qu'on n'aurait pas eu autrement. Peut-être que les données de santé des Irlandais vont réapparaître dans 10 ans sur le dark web et que les archéologues du futur en auront usage, on ne sait pas, c'est une sorte d'open data un peu bizarre. Hein.
C'est ça, mais c'est un open data nominatif, donc c'est un petit peu embêtant. Enfin, après, on peut avoir des infos sur qui est malade, voilà, c'est pas nécessairement super. Mais...
C'est pas idéal, mais bon, j'essaye d'imaginer le futur. Actuellement, j'ai l'impression qu'on est revenu au Moyen-Âge, qu'on est revenu effectivement à d'autres époques. Je veux dire, on fait rançon du jour au lendemain, votre ordinateur peut se trouver coincé par un rançongiciel. Je trouve ça vraiment intéressant de mélanger les périodes. J'ai l'impression qu'on a un peu de tout en ce moment. C'est du n'importe quoi.
C'est ça. Bon, l'avantage au moins, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec un gros sabre pour te trancher la tête. C'est un peu moins violent.
Tant que tu n'as pas un pacemaker. Hein. Parce que n'oublie pas, il y a des gens dont la vie est en danger directement.
Oui, puis dans les hôpitaux et après, effectivement, les voitures, on peut imaginer qu'il y ait à l'avenir peut-être des choses de ce type-là. Ouais. Et puis, il y a la déstabilisation sociale, évidemment. Hein, quand on voit effectivement les mouvements de panique aux États-Unis, où on sait qu'il n'en faut pas beaucoup pour commencer à se tirer dessus les uns les autres. Surtout que le pipeline passait par l'Alabama, donc tous ces États où les gens aiment bien les flingues. Voilà, ça peut effectivement générer pas mal de chaos. Donc nous, on va sécuriser notre informatique d'ici à la semaine prochaine.
On va faire attention, hein, on ne chiffre rien chez nous, mais on bloque tout. Donc je vais remettre des firewalls, ça peut pas faire de mal. Un bon pare-feu.
Voilà, moi je vais te raccrocher au nez parce que je te bloque. Allez, salut.
Allez, à la semaine prochaine malgré tout. Salut.